Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, Léorechem Tovim et Shanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude, notre lecture du livre merveilleux Zera Shimshon du maître illustre Rabbeinu Shimshon Haim Nahmani. Zichrono Le'olam Haba, Zichrono Tagen Alenu. Nous sommes Parashat Toldot Darush 1. Ve'ele Toldot Yitzhak Ben Avraham. Avraham olid et Yitzhak. Le pasuk dit, et voici la descendance d'Yitzhak, le fils d'Avraham, Avraham engendra Yitzhak. Rashi précise, et voici la descendance d'Yitzhak, le fils d'Avraham, il s'agit Yaakov et Esav à Amorim Baparacha. Il s'agit de Yaakov et Esav dont il est question dans la paracha. Ça c'est, ainsi Rashi ouvre son commentaire sur la paracha. Et a priori, qu'est-ce que vient nous enseigner Rashi? À première vue, cet enseignement de Rashi, les paroles de Rashi sont superflues. Les versets étant suffisamment explicites, il est dit plus loin, le premier est sorti, il était roux, et tout son corps était pareil. Vayetzea, Arishon, Admoni, Kuloke, Aderetzea. Il était comme une pelisse. Et on lui donna le nom de Esav. Vaykreu, chez moi, Esav. Vahakar, Yatsahiv, Vyado, Hezed, Baakev, Esav. Vaykreu, chez moi, Yaakov. Alors, c'est le deuxième, il est sorti. On l'a appelé Yaakov. Donc, il s'agit de cela. Ce sont les deux enfants de Yitzhak et de Rivka. Donc, pourquoi Rashi précise? Quel intérêt y a-t-il et qu'est-ce qui est contenu dans les paroles de Rashi? Cependant, précédemment, nous avons, à la fin de la paracha précédente, là-bas, il y a marqué, voici la descendance de Ishmaël. Et là, il est dit que Ishmaël a donné naissance à 12 princes. Après cette parenthèse, donc comme si que l'histoire de Ishmaël, c'est une parenthèse, on le cite parce qu'il faut le citer, mais l'essentiel, il est ailleurs. Après cette parenthèse, la Torah, elle revient à l'essentiel, la descendance d'Isaac. Cependant, une question, ici, il y a une question qui se pose, pourquoi il est dit « Ve ele toldot Isaac ben Abraham » Il fallait dire « Ele toldot Isaac ben Abraham » Parce que le « Vav », la conjonction et le « et », voici, le « et » relie ce qui est là, la descendance d'Yitzhak ben Avraham, avec ce qui précède. Et qu'est-ce qui précède? La descendance d'Ishmaël. Est-ce qu'il y a un lien entre eux? Alors pourquoi, voilà que Chachamim nous disent « Elle est passal et arishonim »« Ve'elle est mosif à l'arishonim » Quand il y a marqué « elle est », ça coupe, fait une coupure, ça élimine ce qu'il y a avant, et ça coupe. Alors que le vav, il ajoute ce qui a précédé. De plus, alors c'est une question. Si on dit que il y a une distinction totale, que entre la parenthèse, nous avons fermé la parenthèse Ishmaël et maintenant nous allons passer à l'essentiel qui est Yitzhak. Alors il fallait pas marquer ve'elé, il fallait dire elé. De plus, pourquoi il est dit Yitzhak ben Avraham, Avraham au lieu de Yitzhak? On sait bien que Yitzhak, il est le fils d'Abraham, c'est déjà précisé à plusieurs reprises précédemment. Alors pourquoi on vient nous le dire à nouveau? Il était suffisant de dire « Ve'ele toldot Yitzhak ». Alors, est-ce que ces précisions sont nécessaires pour nous indiquer et souligner que la descendance d'Yitzhak est la seule qui se rattache à Abraham? Alors, on peut expliquer ça de la manière suivante. En effet, pour permettre aux lumières de jaillir, maintenant, il est établi que les Avot HaKedoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et les Imaot, sont là que pour réparer la faute première, initiale de Adam Harishon. Donc Adam Harishon, nous avons dit à plusieurs reprises, que son corps qui n'était pas un corps physique, matériel, comme nous le connaissons aujourd'hui, Son corps, il avait une stature qui allait d'une extrémité à l'autre de la création, c'est-à-dire que de l'ensemble de la création, tous les mondes supérieurs, spirituels, raffinés, etc., inaccessibles, il les maîtrisait, il voyait d'une extrémité à l'autre, donc il avait un corps. Comme tout être créé, il avait un corps, mais son corps était d'une fluidité parfaite, d'une pureté totale, et à tel point que les anges l'ont pris, les anges eux-mêmes l'ont pris pour le Seigneur Créateur, et ont voulu lui présenter des offrandes. Donc il est à ce niveau-là. Et de la même manière que Adam est de cette qualité-là, son corps, son intelligence, sa connaissance, etc., de même, l'ensemble de la création est de la même qualité. Donc l'arbre qu'il va manger, c'est pas un arbre avec un tronc et des branches et des fruits, c'est d'une autre dimension. C'est vrai que c'est un arbre. Il est appelé Etz, Adaratovara. Il transcende les mondes. Et en réalité, il y a quatre mondes établis depuis le monde de la Hatzilut jusqu'au monde de la Asiya, le monde de l'émanation le plus haut. Et le monde de la matérialité, celui qui en va. Mais ces mondes-là, ils sont emboîtés les uns dans les autres. Et quand on emboîte le monde de la matérialité, il est emboîté dans le monde supérieur de la spiritualité. Donc lui aussi, il se raffine, il devient de la même, la matière est secondaire par rapport à la spiritualité. C'est comme ce que dit le Zohar, qu'à la fin des temps, les créatures vont voler. C'est-à-dire que l'essentiel sera l'âme et que le corps sera secondaire par rapport à l'âme. La matière va être d'une pureté, il n'y aura plus le concept de limite de la matière, puisqu'elle sera attachée totalement à la spiritualité, à la neshama. Dans le monde ici-bas, c'est exactement l'inverse. La neshama est emprisonnée dans le corps et que on ne peut appréhender la neshama qu'à travers les actions du corps. C'est l'inverse. Donc quand il faute, il a ce corps exceptionnel. Quand il faute, il détache les mondes. Le monde de la matérialité se détache de la spiritualité. Il prend une autonomie et il semble même qu'il soit totalement indépendant. La matière prend de l'ampleur, de l'épaisseur, et elle prend de la perspective, etc. Donc c'est le monde, elle devient vulgaire. Ce qui était le corps de la spiritualité, les fruits du fameux arbre de la connaissance, c'était des fruits spirituels qui avaient une matière énergétique. Il se détache, cette matière-là prend de l'ampleur et devient les fruits que nous connaissons. Les animaux aussi, nous dit le Ramchal, que les animaux, à l'époque de Adam Arishan, avant la faute, étaient comme les hommes d'aujourd'hui. Donc il y a une dégradation et une transformation de la matière. L'homme, le corps de l'homme lui-même devient matière et il se diminue. Donc automatiquement, le corps de l'homme qui contenait toutes les âmes, se réduit, donc, et les âmes ne trouvent plus leur place, elles tombent, elles se répandent, à droite, à gauche. Donc la structure de la Touma, qui était sous perfusion, minuscule, un niveau totalement réduit, va prendre la structure, une structure énorme, identique à celle de la Kdusha, de Adam Arishon. Et elle va emprisonner, accaparer les Neshamot qui tombent. Et toute la Avodat Hashem, c'est justement de faire ressortir ces lumières, de faire ressortir ces Neshamot Kedoshot Teorot qui se sont répandues là, ça et là, dans les Klipot, ce qu'on appelle les Klipot. Alors, afin de permettre à ces lumières de jaillir en ce monde, il est indispensable que les impuretés soient séparées de la descendance d'Abraham. Abraham lui-même, il est comparé à un diamant. N'est-ce pas? Donc, mais le diamant, quand on va à la mine de diamant et on prend un diamant, on trouve pas un diamant pur, on trouve un caillou. Donc, il y a des saletés à l'extérieur qui enferment le diamant. Donc, il faut les éliminer. C'est la partie extérieure comme une écorce. Et après, le diamant lui-même, quand on l'a récupéré, il contient en lui-même des scories, donc il faut nettoyer, donc c'est le tailleur de diamant va éliminer les éléments négatifs. Et ça, c'est que la comparaison qu'il y a avec les Avot HaKedoshim. Abraham a éliminé, a rejeté les impuretés contenues en lui par Ishmael, puis Yitzhak va éliminer ce qui est contenu en lui par Esav, jusqu'au moment où Yaakov va sortir totalement kadosh, pur, et il va donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Donc les écorces, les scories apparaissent avant le fruit, nous disent les Chachamim. Alors le verset, on commence par « Et voici ». Et Véle doit se comprendre. Et après qu'Ishmaël ait vu le jour et a donné naissance à ses 12 princes, à présent, voici le processus qui se poursuit et qui va donner naissance à nouveau à Yaakov et Esav, etc. Et c'est le processus de purification de la descendance d'Abraham va se continuer. Esav choisit de s'éloigner de l'Avodat Hashem, il choisit d'emprunter les chemins négatifs. Yaakov endosse, lui, l'héritage d'Abraham et de Yitzhak. Il prend à sa charge l'Avodat Hashem, et il deviendra le principal personnage de cette histoire, le pilier central sur lequel tout l'édifice de la création tient. Plus loin, il est dit, c'est ce qu'on dit, Abraham c'est Hesed, Yitzhak, c'est la Gvura, et Yaakov, c'est le Tiferet. Il fait l'harmonie, c'est le pilier central. Comme nous disent nos maîtres à plusieurs reprises, le monde tient sur trois piliers. À la Torah, à la Avoda, et à Gmilut Hasadim. Gmilut Hasadim, c'est Abraham. Avoda, c'est le service, divin, c'est Yitzhak. La Torah, c'est Yaakov Avinu. Donc il y a trois piliers, donc c'est pour cela qu'il est marqué « Véle toldot », ça rattache. Il ne peut pas y avoir d'apparition de Yitzhak et de la descendance d'Yitzhak s'il n'y a pas eu précédemment l'apparition de Ishmaël. Le pasuk dit « Va être ce soir banim bekirba ». Les enfants se bousculent en son sein. « Va ton mère », elle se dit « Imken lamazé anochi ». Pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi j'ai demandé, Rachid dit, pourquoi j'ai demandé à être enceinte? J'ai tellement prié pour être enceinte. Va-t-elle l'air l'hydroche et Hachem? Elle est partie consulter à Kadosh Baruch Hu. En la personne du Chacham, du Navi, c'est Shem Ve'ever. Yomer Hachem, là, Hachem lui a répondu, Shnei Goyim Bebitner, il y a deux peuples dans tes entrailles. Ou Shnei Leumim Imeaïri Parezou, deux nations, deux peuples qui vont se séparer de tes entrailles, ils vont se séparer. Rashi souligne que le mot Goyim est écrit sans Aleph. Il est écrit Geim. Il est écrit sans Vav. Donc il est marqué Geim. Geim, des grands personnages, des gens de renommée. Allusion à Antonin, Antoninus et Rabbeinu HaKadosh. Antonin est le descendant de Esav, le chef, le roi de la puissance de Rome. Esav et Rabbeinu HaNasi, c'est le représentant de Nasi, le prince d'Israël. Donc tous deux sont chefs puissants, incontestés de leur peuple et de leur nation. Alors maintenant la question elle est, pourquoi Rashi choisit de citer Antonin et Rabbeinu HaKadosh au lieu de dire que c'est Yaakov et Esav, puisque c'est les deux, Yaakov et Esav sont les sources de ces deux nations-là, sont les racines des deux nations. Alors c'est le sens du mot Toldot qui est ainsi précisé. Il ne s'agit donc pas uniquement de la naissance de deux enfants, mais de deux nations, de deux civilisations, de deux cultures que tout oppose. Cependant, ces deux nations restent malgré tout liées à Abraham. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu ne ferme pas la porte. La porte reste ouverte. Comme nous avons dit précédemment dans les psukim avant, il est dit qu'Abraham se tenait à la porte de la tente. Alors la porte, pourquoi il est dit la porte? Il est assis à la porte de la tente. Pourquoi la porte de la tente? Parce que la tente, ça symbolise. Ça fait référence au sanctuaire, la Kdusha, la maison d'Abraham, et la résidence de la Shekhina. C'est le monde, le sanctuaire que Avraham construit en ce monde, et la porte est ouverte. Il ouvre la porte pour permettre au plus grand nombre de venir pénétrer. Et toutes les actions d'Avraham, Avraham est qualifié de Avramon Goïm, c'est le premier, c'est le père de tous les convertis, de ceux qui vont faire la démarche de venir, de quitter la Klipa, de quitter la Touma, de quitter les bienfaits de ce monde, les délices et les ambitions de ce monde pour s'inscrire, pour s'introduire dans la sainteté. C'est Avraham qui ouvre la porte. Et il permet, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, que de par ses actions, de sortir les âmes qui sont enfouies, emprisonnées et attachées par les chaînes de la Touma, de se libérer. Parce qu'ils voient, là, c'est comme ça fait un effet, et ça dément. C'est-à-dire quand il y a la Neshama enfouie dans la Touma, elle sent la présence de la Gusha, elle veut se relier à cela. Parce que c'est le sens profond de ce qu'elle est. C'est son essence même. Donc c'est ce que le travail que fait Abraham. Alors pour dire que même Ishmaël, la descendance d'Ishmaël, et même la descendance d'Esav aussi, elle a une possibilité de revenir et de se convertir et d'adopter la Torah. Alors c'est pour ça qu'Abraham, il est qualifié à Avlagerim. Il est le père de tous ceux qui veulent se convertir et adopter la Avodat Hashem comme raison d'être. C'est pour ça que la paracha, elle commence par le vav de VLE. VLE, c'est le vav qui relie tout à quoi ? Il relie tout à Avraham. Tout est relié à la possibilité. Avraham, il est qualifié à Avraham Ha'ivri. C'est le premier à avoir choisi contre tout le monde. Il s'est mis d'un côté du monde contre tous les autres qui étaient de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est le premier à avoir adopté la volonté de servir Dieu. Le Zera Shimshon poursuit et dit, de la descendance de Yaakov aussi, il va se trouver des gens qui vont pas être corrects, qui vont s'écarter de la Torah. Qu'à tel point que la Mishnah nous dit dans Sanhedrin, que, Kol Israël et Shem, tout Israël, chacun, il a une part dans mon futur. Après, si, tout de suite, voici ceux qui n'en ont pas, qui l'ont perdu. Donc, il y a des gens qui perdent. Il y a des Bnei Israël qui peuvent perdre, qui risquent de perdre. Leur part, parce qu'ils se détachent, ils se détournent, ils s'éloignent. Alors c'est pour ça que ceux-là aussi, ils ont une possibilité de revenir. C'est là la raison indispensable de lier toutes ces descendances-là, toute la descendance d'Abraham dans sa diversité, dans cette différence. Sont toutes liées à Avraham, parce que la porte, elle reste ouverte. Il suffit de vouloir emprunter le chemin qui mène et pénétrer dans la tente. Alors, les deux enfants qui sont cités ici, Yaakov et Esav, sont à l'image de cette réalité. La réalité de ce monde, c'est que il n'y a pas le bon et le méchant d'un côté. C'est complexe. L'un, Yaakov, il symbolise la perfection d'Avodat Hashem. L'intégrité. L'autre, il est à l'opposé. Esav, c'est le méchant. Il a choisi de faire le mal, etc. Mais on va remarquer que de Esav vont sortir les plus grands rachamim. Les plus grands rachamim, ceux qui transmettent la Torah orale, Rabbi Akiva, Rabbi Avtalion, etc. Rabbi Meir, ils descendent tous de Esav. C'est-à-dire qu'il y a une porte ouverte qui doit rester ouverte pour permettre à Esav de se repentir, de revenir, etc. Alors, la vérité, c'est comment on peut comprendre, comment expliquer ce qui nous étonne, comment expliquer que deux frères jumeaux qui grandissent dans la même maison soient à ce point aux antipodes l'un de l'autre. Et comment on peut expliquer cela? Alors, on peut dire, voilà, Rivka, c'est la faute à Rivka. Peut-être pas sa faute elle, mais la faute du fait de l'hérédité. Elle descend, son père c'est un rachat, son grand-père c'est un rachat. Elle est tzadiket. Alors tzadik ben rachat. Et là, il y a Itzhak, il est tzadik ben tzadik. Alors c'est parce que c'est la raison pour laquelle. Alors il y en a un qui est tzadik ben tzadik, qui va donner un enfant tzadik, c'est Jacob. Et Rivka qui son père, c'est un rachat. Alors, à cause de ça, voilà, il y a Esav qui est sorti avec des défauts. Il a hérité des défauts transmis par la famille de sa mère. Est-ce qu'on peut dire ça? Eh bien, on dit non, c'est faux, c'est une erreur. La meilleure preuve, c'est que Abraham et Sarah étaient tous deux tzadikim, enfants de Réchaïm. Et malgré tout, ils ont donné naissance à un tzadik gamour. Pourquoi ils n'ont pas donné naissance à un demi-tzadik? Ou, si vraiment cette raison-là est affirmée, on voit exactement le contraire, que Yitzhak est l'exemple même du serviteur Ola Temima. Il s'est donné, sacrifié, il a rendu à Hachem même sa propre personne et son être. Donc c'est la perfection. De même ici. Et ça, Bémet, il a la possibilité de faire le bon choix. Est-ce qu'il veut faire le bon choix? C'est vrai que ça lui demande énormément d'efforts, que naturellement, il doit surmonter et dominer ses passions. Les difficultés sont plus grandes pour Esav que pour Yaakov, c'est vrai. Mais s'il avait voulu combattre et dominer, être véritablement l'homme fort, comme il dit, quel est l'homme fort? Celui qui se domine. L'homme fort, c'est pas celui qui va tuer les autres, il va les conquérir. C'est Ezeo Gibor à Kovachetitro, donc c'est celui qui arrive à se dominer. Il aurait pu le faire, s'il avait voulu, mais il a choisi un autre chemin. Alors, de toute façon, nous disent les maîtres, donc comme il a pas voulu, alors c'est pour cela qu'il est devenu ce qu'il est. Il faut ajouter aussi, il y a une autre raison à ça. On remarque que les brachot vont parvenir à Yaakov de manière détournée. Ils vont devoir emprunter des chemins tortueux, des chemins sinueux. C'est des ondulations et des détours. Pourquoi? Pourquoi, en vérité, la bracha, elle revient vraiment de droit à Yaakov. C'est lui qui est tzadik. Et Yitzhak le sait bien. Pourquoi il veut bénir? Et ça, et Rivka va agir de telle sorte que la bracha, elle arrive à Yaakov. Pourquoi ce détour, ce détournement? Et ça, on a l'impression que Yaakov, c'est un rusé, c'est un méchant, il a volé, entre guillemets, ce qui revenait à Esav. En vérité, la volonté d'Akadosh Baruch Hu se réalise de telle sorte que Yaakov doit user de subterfuges pour obtenir ce qui lui revient de droit. Tout cela traduit que la prospérité, l'abondance, l'opulence, la richesse ne sont pas l'essentiel dans ce monde, et sont uniquement le moyen de se consacrer à la Torah et aux mitzvot, sans le souci du quotidien. Il y a ici un Yesod qui est mentionné dans le Rambam, Ilchot Tshuva, au Perek 9. Il dit, si Bémet, toute la récompense des mitzvot, c'est dans l'Olam Haba, alors pourquoi la Torah, elle mentionne sans cesse les récompenses dans ce monde? Toutes les brachot, c'est des brachot dans ce monde. Et même les brachot que Yitzhak octroie à Yaakov, c'est les brachot de ce monde. Vitelecha, Elohimital, Hashamayim, Shemana Aretz. L'abondance de ce monde. Alors pourquoi? Il dit, Rambam, ça c'est pas la récompense des mitzvot. Ça c'est le moyen. Si tu es méritant, si toute ta volonté, ton désir, ton aspiration, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, alors il faut que tu puisses le faire de manière facile. Alors, avoir la richesse, l'abondance, la prospérité, le posséder tout, c'est pas pour en jouir, c'est pour être tranquille. Le vrai riche, c'est celui qui a pas besoin de dépenser, il dépense son argent pour aider les autres. Il est généreux vis-à-vis des autres, mais il a pas besoin de dépenser pour que lui, il puisse se prouver qu'il est riche, alors il va acheter les meilleures choses, il va jouir lui-même des meilleures choses. C'est pas la richesse, ça. La richesse, c'est de savoir qu'on a la richesse et avoir la tranquillité. Après, comme tu as la tranquillité, il te manque rien, tu n'as aucun souci, tu peux étudier la Torah et te consacrer uniquement au service d'Hachem. Ça, c'est la raison, comme ça explique Maïmonide, la raison des brachot qu'il y a dans la Torah. Alors, pourquoi? Pourquoi maintenant on revient? Pourquoi Yaakov, c'est de manière détournée? Il dit parce qu'il y a un grand danger. La richesse, c'est un grand danger, parce que les gens pensent, et c'est comme ça que c'est rentré dans la Todaha, dans ce monde, tout le monde pense, que si j'ai les moyens, donc ça veut dire que Dieu, il me donne la possibilité, c'est une mitzvah, de jouir de tout ce qui est dans ce monde. De manière cachère, évidemment. Mais, il y a une mitzvah de jouir. Et ça, c'est l'erreur. La richesse n'est pas donnée à l'homme pour qu'il en profite. Elle est donnée à l'homme pour qu'il en fasse profiter les autres et que lui, il ait la tranquillité d'esprit pour étudier la Torah. En vérité, on voit que plus un homme il est riche, plus il a des moyens et plus il va se consacrer à faire fructifier ses biens. Donc il a un souci permanent de prospérité, de réussite, de gagner encore plus, de ne pas perdre ce qu'il a. Alors qu'il était suffisant de dire, Baruch HaShem, j'ai ce qu'il faut, je peux étudier la Torah. Ça c'est l'erreur. Donc et en plus, quand on commence à profiter de ce monde, alors on est attaché la séduction que l'attrait des plaisirs de ce monde, c'est une tentation, une séduction, un charme qui peut entraîner l'homme à se détourner de la voie d'attrait. Et on voit que les gens les plus aguerris, les plus forts, ils se sont laissés aller à faire des erreurs. Donc la confrontation de Yaakov et Esav, leur opposition, leur rivalité, leur antagonisme, amènera Yaakov à relativiser son rapport au pouvoir et à l'argent, et à la richesse. Parce que dans ce galout, dans l'histoire, il n'y a pas un moment où il y a une tranquillité parfaite. La bracha, la prospérité n'est pas parfaite, elle est toujours incomplète et partielle. Parce que si elle était parfaite, alors on va tomber à la dérive. Et ça, à qui on le doit? On doit à Avraham. Avraham, lors de Brit Mena Betarim, il demande à Akadosh Baruch, comment je vais savoir, Bama Eda Ki Hirashena, comment je vais savoir que mes enfants, ma descendance, ils vont être bien, ils vont être dans le chemin de la Torah, ils vont réussir à hériter de la terre, etc. Comment? Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu peux choisir, le Geinam, s'ils font des fautes. Im yahatu b'may chaper lahem. S'ils font, comment la caparelle va venir? Alors, on peut faire. Alors, il leur dit, Yavi ou Corban? Ils apportent un Corban. Après, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, Abraham, il dit, mais ça, c'est quand il y a le Beit HaMikdash. Mais s'il n'y a pas de Beit HaMikdash, comment? Alors, il dit, Galout. Galout ou Geinam? Abraham, il choisit Galout. Parce que Geinam, c'est terrible. Donc, puisqu'il y a le Galout, le galout, il est donné à qui? À Esav. Esav, c'est Esav qui va être celui qui va amener Yaakov en galout. Et cette galout-là, c'est là pour permettre à Yaakov de relativiser le pouvoir. Donc même s'il y a des périodes dans l'exil où Yaakov va être dans la prospérité parfaite, c'est temporaire, c'est limité. Il n'y a pas une totale quiétude en ce monde. Et c'est ça qui est marqué au début. Vele toldot. Le mot toldot n'est pas seulement à comprendre comme étant la descendance, mais la péripétie, la destinée. Voilà ce qui va se passer dans l'histoire. Voici les événements qui vont se produire plus tard. Et qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire qu'il n'y aura pas la tranquillité d'Am Israël, n'aura pas une tranquillité d'esprit tant que le galout sera là. Et tant que le monde n'aura pas été ramené à réparation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à l'époque de Adam Arishon Lifnei Ahet. Baruch Adonai Eleolam, Amen ve Amen. Cette étude, elle est consacrée, dédiée à tous les malades, et en particulier à Haïm Bar Shlomit, Begam Hashem Atov, Haïm Bar Simi, Shimon Bar Josephine. Eliyahu Bar Fricha, David Bar Saada, Tazuar Vivem Bat Naomi. Saada bat Mesodi, Natali Shoshana bat Nikol Kolet Lala, Asher Mesod ben Mesoda, Regis Shlomo bar Yola Elian, Pom Aisha Bracha bat Haya Figel, Moshe Eliyahu bar Levana, Michel, Eugénie Michel Yehudit bat Rachel, Anna El Narfanalem, Anna El Narfanalem, Leilu Nishmat, Rohamad Zikulet bat Ninet, Mordechai Barisa, Benim Yaakov, Barzo Aritrud, Gabriel Eliyahu Barpenina, Yvette, Halo Batjili, Zichonam le Haya Olam, pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une délivrance, d'avoir des enfants, de trouver une épouse, d'avoir une meilleure parasa, Bisrut Amhaber, Ezrenu Beshem Alan Sechamvaes, le mérite du Rav, il nous accompagne, et par son mérite, Akadosh Baruch Hu octroiera à chacun ce qu'il mérite de recevoir. Baruch Adonai Eleolam. Amen ve Amen.